Les services de renseignement iraniens révèlent l'implication d'étrangers européens dans les émeutes anti-Téhéran. Le ministère iranien des renseignements a accusé les services de renseignement occidentaux d'avoir organisé des formations dont certaines ont eu lieu dans certains pays de la région sur la manière de combattre la République islamique, d'inciter à la désobéissance civile et au sabotage. Le ministère iranien du renseignement a annoncé l'arrestation de plus de 250 personnes en lien avec les manifestations qui ont suivi la mort de la jeune femme Mahsa Amini, dont 9 étrangers. Le ministère a révélé dans un communiqué que des citoyens étrangers d'Allemagne, de Pologne, d'Italie, de France, des Pays-Bas, de Suède et d'autres ont été arrêtés sur les lieux des émeutes ou dans les coulisses du complot, selon l'agence de presse officielle IRNA. Le communiqué indique que des agents d'organisation d'espionnage étrangère des États-Unis et de la Grande-Bretagne ont participé à ces manifestations. Le communiqué ajoute qu'un avertissement opportun sera adressé aux ambassades dont les clients sont impliqués ou sont entrés dans l'arène des troubles, y compris les ambassades d'Allemagne, de France, d'Angleterre et de Suède. Au cours des manifestations, les autorités iraniennes ont arrêté 49 membres de l'organisation terroriste des Moudjahidines du peuple, 77 partis kurdes, anti-Téhéran et 5 membres de groupes takfiristes. Vendredi, le conseil d'experts des dirigeants iraniens a condamné les récentes émeutes et insultes à la sainteté et a souligné que les émeutiers seront poursuivis en justice. Hier jeudi, le gouverneur de Téhéran, Mohsen Mansouri, a confirmé que les récentes émeutes sont terminées et que Téhéran connaît le calme et la sécurité depuis plusieurs nuits. Selon Amir Abdollahian, l'Iran n'est pas une scène appropriée pour des coups d'État militaires ou des révolutions coloré. Hossein Amir Abdollahian a déclaré dans une interview au journal américain The New York Times que son pays ne permettrait pas que la sécurité et la stabilité du pays soient affectées par les médias étrangers et l'incitation politique. Il a ajouté « L'Iran n'est pas un lieu pour les coups d'État militaires ou les révolutions colorées. Le peuple iranien est conscient et il y a une différence entre protester et provoquer des troubles et des émeutes. » À son tour, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que les dirigeants politiques aux États-Unis et parfois en Europe ont soutenu les médias occidentaux diffusant de faux contenus anti-iraniens en Perse, exploitant un incident douloureux qui fait toujours l'objet d'une enquête. Il convient de noter que l'Iran a été témoin de rassemblements populaires de diverses provinces iraniennes en faveur de la République islamique d'Iran et d'un rejet des émeutes qui ont eu lieu dans les villes iraniennes ces derniers jours et de l'attaque contre des biens publics qui s'est produite en ces derniers jours contre les circonstances de la mort de Mahsa Amini. Il y a quelques jours, la police iranienne a diffusé un clip ou vidéo capturé par des caméras de surveillance montrant les derniers instants de la vie de la jeune femme Amini au poste de police. Et la police de Téhéran affirme que les images prouvent qu'Amini, 22 ans, n'a pas été victime de violences ou d'abus physiques. Le passage de Big Brother par les Pyrénées a étouffé la liberté d'expression dans cette partie sensible de la France. Avant une visite de Macron à Pau, la police a confisqué des pancartes au domicile de particuliers. En France, alors qu'Emmanuel Macron était attendu à proximité et que des Palois, inquiets pour leur retraite et leur avenir, brandissaient de petites pancartes sur leur balcon, la police a fait irruption dans leurs appartements pour confisquer leurs banderoles et affiches. « Je veux pouvoir prendre ma retraite avant que le climat ne s'effondre et ce n'est pas une gage », tel était le message inscrit sur l'une des petites pancartes des habitants de Palois brandis à la fenêtre de leur appartement le 30 septembre. Une affiche sans insulte qui n'était pas du coup de la police et qui a procédé à sa confiscation. La République des Pyrénées, qui a relayé l'information, souligne qu'Emmanuel Macron est était en effet attendu dans le quartier pour inaugurer le nouveau pôle culturel de la place. Le quotidien note qu'un second panneau, également retiré, indiquait « Tout va bien dans le meilleur des mondes » au 1984, je ne sais plus. Ces deux œuvres littéraires décrivent un monde sous le règne de Big Brother. Et un couple a témoigné auprès du journal. Les policiers ont menacé de défoncer la porte. Ils ont dit « Si vous gueulez, on vous emmène ». Trois particuliers auraient relevé l'identité du couple et seraient restés dans l'appartement le temps qu'Emmanuel Macron fasse la visite du pôle culturel du quartier du Forail dans la ville, dirigé par son allié politique François Bayrou. L'intervention s'est déroulée dans le cadre du périmètre de protection établi par arrêté préfectoral. Se sont défendus la préfecture et le patron de la police départementale. Ce dernier précisant auprès du quotidien pyrénéen, ce n'est pas l'interdiction de manifester sur la voie publique qui a justifié l'intervention, mais la protection de la personnalité du chef de l'État. À partir du moment où on a des personnes qui, depuis leur balcon, affichent des slogans revendicatifs, il fallait qu'on s'assure qu'elles n'ont pas de velléité de s'en prendre au chef de l'État ou à la foule aussi près du lieu de dépôt du président. Selon Poutine, les habitants des quatre régions rejoignant la Russie seront nos citoyens pour toujours. Vladimir Poutine a officialisé l'adhésion des territoires libérés à la Russie. Les habitants du Donbass et des régions de Zaporijjia et de Kherson qui ont voté pour l'adhésion à la Russie lors de référendums non reconnus par Kiev seront des citoyens russes pour toujours, a déclaré Vladimir Poutine ce 30 septembre. Les habitants de Lugansk et Donetsk, Kherson et Zaporijjia deviennent citoyens pour toujours, a affirmé le président russe Vladimir Poutine ce 30 septembre devant un parterre de personnalités composées notamment de membres du gouvernement, de députés et de sénateurs de la Russie. Les gens ont voté pour notre avenir commun, a-t-il ajouté. Poutine s'est exprimé dans le cadre de la CEI en visioconférence. Dans la foulée des récents référendums d'autodétermination contestés par Kiev et ses alliés occidentaux, qui les considèrent illégaux et illégitimes, organisés dans le Donbass et dans la région de Kherson et Zaporijjia, une cérémonie avait eu lieu au Kremlin afin d'entériner le rattachement de ces entités territoriales à la Fédération de Russie. Le thème de la souveraineté a été au centre du discours que Vladimir Poutine a tenu. Il a ainsi appelé à continuer la bataille, je cite, « pour notre grande Russie historique, nos enfants et nos petits-enfants, qu'il convient selon lui de protéger de l'influence occidentale. Le chef d'État russe a également appelé son pays à suivre un chemin spirituel historique, saluant la volonté exprimée lors des référendums de rejoindre la patrie. Nous allons protéger la Russie, a-t-elle conclu avant d'être applaudi. Vladimir Poutine a aussi appelé Kiev à cesser immédiatement les tirs, toutes les hostilités et revenir à la table des négociations et a accusé les anglo-saxons d'être à l'origine des explosions qui ont provoqué des fuites sur le gazoduc Nord Stream 1 et 2, une attaque présumée qu'il avait déjà qualifiée la veille d'acte de terrorisme international. À la suite de cette intervention, Vladimir Poutine a signé des accords sur l'adhésion à la Fédération de Russie, des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ainsi que des régions de Kherson et de Zaporijjia. La Finlande a fermé l'une de ses principales autoroutes pour un exercice aérien. La menace de la Russie ou les actions que mène la Russie en Ukraine avec des missiles de croisière et des missiles balistiques prouvent que le concept d'opération dispersée est juste, a fait valoir le colonel Vesa Mantila, le chef de l'Académie de la Force aérienne finlandaise, alors que le retour d'un engagement d'haute intensité est au cœur des préoccupations. L'armée de l'air et de l'espace dispose-t-elle encore d'une réelle capacité de dispersion dans le cas où ses bases aériennes viendraient à être visées par une attaque? La question peut se poser d'autant que nombreuses plateformes aéronautiques dotées des indispensables hangarettes durcies ont été fermées lors des réformes menées au cours de ces dernières années selon OPEX 360. Les pilotes militaires finlandais s'entraînent tous les ans à opérer depuis une section d'autoroute transformée en aérodrome auxiliaire. Ces manœuvres concernent tous les types d'avions en service du Pilatus PC-12 au C-295M en passant par le BAE HWAC. Évidemment, le F-1A-18 Hornet. Cet appareil étant initialement destiné aux opérations aéronavales, ils utilisent des brins d'arrêt placés en bout de piste. Cette année, pour l'exercice PANA 2022, selon l'agence Reuters, la force aérienne finlandaise a utilisé une section d'autoroute qu'elle avait délaissée depuis des décennies en raison de son importance, puisqu'elle relie Helsinki aux parties les plus septentrionales du pays. Et cela alors qu'une douzaine de pistes autoroutières sont à sa disposition. Aussi, avant de fermer partiellement cette autoroute pendant 5 jours, il a fallu en nettoyer les abords, donc couper quelques arbres et s'assurer que la piste était en bon état. L'exercice vient de se terminer. Ce 29 septembre, il aura surtout mobilisé des F-1A-18 Hornet et des BAE HWAC, ainsi que 200 aviateurs, dont 70 réservistes. Le personnel de maintenance des aéronefs et les réservistes seront formés pour établir une base routière et y mener leurs activités, y compris les tâches de soutien et de sauvetage. Les unités des systèmes de commandement et de contrôle C2 fourniront les services de communication, de navigation aérienne, ainsi que l'alimentation électrique nécessaire à la base temporaire. La police militaire assurera la protection et la sécurité dans la zone d'exercice, avait détaillé l'état-major finlandais quelques jours avant le début de BANA 2022. La menace de la Russie ou les actions que mène la Russie en Ukraine avec des missiles croisières et des missiles balistiques prouvent que le concept d'opération dispersée et juste a fait valoir le colonel Vesa Mantila, le chef de l'Académie de la Force aérienne finlandaise. Le câble électrique suédois passant près de SP1 Nord Stream 1 s'est avéré être prudemment hors tension avant l'explosion sur le gazoduc. En Suède, il parle de problèmes connexes qui pourraient survenir à la suite d'explosions sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Dans la section où leur chaîne passe dans la zone économique spéciale suédoise. Per Kevar Nefalk, un porte-parole de la Svenska Kraftnät, a déclaré qu'il y avait une possibilité d'endommager un câble électrique qui longe le fond de la mer Baltique à moins d'un demi-kilomètre de là des sites d'explosion. Le câble fait partie de Svepol Link, un exportateur suédois d'électricité. On sait que l'électricité est fournie par le câble électrique, par exemple au nord de la Pologne. C'est-à-dire le câble a été posé il y a environ 30 ans et répond aux besoins en électricité d'un certain nombre de pays de la région de la Baltique pendant la haute saison. Au moment de l'explosion sur les gazoducs, le câble sous-marin était hors tension. Cela soulève certaines questions sur une telle prévoyance sur la partie suédoise à Stockholm. À Stockholm, ils expliquent que le câble électrique n'était pas sous tension au moment de l'explosion à SP1 et SP2 par le fait que, pour le moment, il n'y avait pas besoin d'exporter de l'électricité. Maintenant, comme le dit le représentant de la société suédoise mentionnée, il est nécessaire de vérifier soigneusement l'état du câble car les données qu'il contient n'ont pas été lues pendant un certain temps, précisément parce qu'il a été mis hors tension. Selon Kevar Nefalk, s'il y a un problème avec le câble, vous pouvez d'abord vous passer de son fonctionnement, mais avec le temps cela affectera la situation de l'alimentation. Rappelons que la Russie est actuellement le seul pays à avoir ouvert une enquête pénale en lien avec les explosions sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. En Europe et aux États-Unis, ils essaient de blâmer la Russie elle-même pour les attentats.